fait froid, mais qu'est-ce qu'il fait froid ce matin ? Mars 1942. Déjà, ça fait plus de 6 mois que nous sommes ici, dans ce camp de Moloa, au milieu de cette forêt de sapins qui m'effraie. Préparez vos affaires et en vitesse. C'est ce que les gendarmes du camp nous ont dit ce matin. Qu'on allait bientôt nous transférer dans un autre camp, dans Lyon, je crois. Qu'est-ce qu'il me manque notre champ de foire de sœurs, même s'il avait été bombardé dès le début de la guerre, par les avions allemands.
L'année dernière, je crois, que c'était en août, on avait reçu une lettre du préfet qui nous disait de nous rendre ici à Moloa. Papa a dit que nous devions partir vite et surtout sans faire d'histoire, car il venait de sortir de prison pour une bagarre qui avait mal tourné et il ne voulait surtout pas avoir de nouveaux désennuis avec la justice. Mes pieds s'en souviennent encore des 130 km à marcher pour venir ici, en poussant notre roulotte à la main avec les quelques affaires qu'on avait eu le temps de charger avec maman. De toute manière, on n'a pas grand-chose à nous, donc on a pris la route sans traîner. Je me souviens qu'il faisait grand soleil et que maman m'avait dit que c'était un temps idéal pour fabriquer et vendre des paniers, mais il ne fallait pas traîner. Je peux vous dire qu'en ce moment, ce n'était pas facile tous les jours de faire partie des gens du voyage, des tziganes ou des roms comme certaines personnes nous appellent aussi.
Heureusement qu'on avait pu l'emmener avec nous notre roulotte. Sinon, il aurait fallu dormir dans ces deux grandes baraques en bois, où tout le monde est entassé. Papa dit qu'elles font au moins 40 mètres de long, chacune, et je le crois, car papa s'y connaît en mesure. Je m'appelle Georgette Metz, j'ai 9 ans, et ça fait 6 mois que je vis ici, dans cette forêt, avec papa, maman et mes frères et sœurs. Quand on est arrivé devant le camp, j'ai vu la double rangée de barbelés qui m'a paru immense. Papa m'a dit que ça devait bien faire 3 mètres de haut. Je lui ai serré très fort la main, et je me suis dit que ça ne serait jamais plus comme avant.
Quand on a reçu la lettre du préfet, j'avais entendu maman parler du camp à ma grand-mère, qui est restée chez nous, à sœur. Elle avait dit que c'était un lieu pour rassembler les familles tziganes, comme nous, et je me souviens qu'elle avait très peur quand on est parti. En plus, aucun membre de ma famille ne sait lire ou écrire, donc impossible de lui donner des nouvelles de toute manière. Le camp a beau se situer au milieu d'une clairière, il fait toujours très sombre. Le paysage est complètement différent de notre champ de foire. Plus on s'en approchait, plus j'avais peur, surtout qu'on a croisé beaucoup de visages inconnus qui nous regardaient avec curiosité.
À notre arrivée au camp, j'ai vu quelqu'un se mettre devant nous et nous barrer le passage. Papa m'a dit ensuite que c'était un gendarme. Moi, je n'oublierai jamais son visage. Il était grand, brun, les yeux foncés, une bouche fine et un nez en bec d'aigle. Maman lui a donné nos papiers et il nous a dit d'entrer. On nous a dit ensuite de rester dans notre roulotte car il n'y avait pas de place pour tout le monde dans le camp. Papa et maman disent qu'on doit être une centaine. De toute façon, moi, je préfère rester dans notre roulotte car je m'y sens mieux. Avec le petit lit superposé qu'on se partage, ma sœur et moi, et les couvertures de plumes qui servent de lit à mes parents et qu'ils déplient sur le plancher de la roulotte tous les soirs avant de les ranger chaque matin. Je suis quelquefois rentré dans les baraques. Il y en a deux et dans chacune d'entre elles, on trouvait un poêle à bois pour les chauffer. Moi, je préfère notre petit poêle à bois. Il est tout petit, mais il nous réchauffe bien les mains et surtout il nous sert à faire à manger. Le bois, c'est pas ce qui manque dans le camp. On est entouré de forêts. Papa part travailler dans les bois tous les jours et pendant ce temps-là, nous on reste au camp avec maman et mes frères et sœurs. Parfois c'est à notre tour d'aller chercher de l'eau, plus haut à la source de la Belle Fontaine, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On prend des gros seaux en métal et on les redescend remplis ensuite. Ce sont les gendarmes qui nous surveillent, qui nous accompagnent quand on va à la source. Ils sont trois, ils se relaient et dorment dans les baraques où ils ont une sorte de douche avec une grosse bassine.
Au camp, on se lave dans des grands baquets d'eau avec l'eau de la source et du savon noir. Pareil pour les vêtements, on n'en a pas eu de nouveaux, alors on les lave comme on peut dans le ruisseau. Maman nous coupe les cheveux très courts tous les mois pour éviter les poux. Il n'y a pas de médecin ou d'infirmière et certains ont déjà attrapé la gale. Si on est vraiment malade, on nous soigne avec des plantes ou de la bave de limace qui fait du bien à la toux.
Mon père et les hommes du camp partent tous les matins pour aller travailler dans la forêt comme bûcherons. Avec les enfants de mon âge, on doit être une quinzaine. Nous, on reste dans le camp et les gendarmes nous laissent ramasser des petits morceaux de bois ou d'osier près de la source. Je les ramène à maman pour qu'elle puisse continuer à fabriquer les paniers. J'essaie aussi de trouver des baies pour compléter notre repas parce qu'on a faim, toujours très faim.
Tous les jours, les hommes du camp ramènent du village la nourriture et on nous distribue ensuite notre petite portion. Normalement, on a de la viande qu'une seule fois par semaine, mais quand papa va chercher la nourriture, il en profite pour vendre les paniers de maman contre un lapin, un peu de gibier ou des œufs. Ça améliore le quotidien et je me dis que c'est un peu grâce à moi, car je trouve toujours des beaux morceaux d'osier à ramener à maman.
N'empêche que j'ai toujours très faim. Le matin, on nous donne juste un peu de café. Il faut attendre le midi pour avoir une soupe aux pommes de terre ou aux choux, et parfois un morceau de fromage. Le soir, c'est encore de la soupe aux haricots ou aux pois chiches, et aussi un peu de légumes. Maman m'a dit que c'était des rutabaga ou des topinambours. Drôle de nom pour des légumes. Je n'aime pas trop, mais j'ai faim, donc je mange. Parfois, on récupère les pelures de pommes de terre et on les fait griller sur notre petite poêle.
Préparez vos affaires et en vitesse, ils ont dit les gendarmes. D'après maman, on est déjà en mars, c'est pour ça qu'il fait si froid. Cette fois-ci, les gendarmes ont dit qu'on ne pourrait pas emmener notre roulotte avec nous et qu'il faut qu'on la laisse sur place, ici à Maulois, et qu'on la récupérera plus tard. J'ai demandé à maman de me dire quand c'est plus tard, mais elle n'a rien répondu. Papa a demandé tout à l'heure aux gendarmes de la déplacer jusqu'à une grange dans le village. Je suis très triste, c'est notre maison. On se dépêche donc de préparer et de rassembler nos affaires. De toute façon, on n'a pas grand-chose. Il y a 3 bus qui nous attendent. Je ne suis encore jamais monté dans un bus.
Dépêchez-vous, il faut partir maintenant. Avec papa, maman et mes frères et sœurs, on est monté dans le premier bus. Il fait froid, très froid. Certains de mes amis sont montés dans les 2 autres bus. Au moins, on quitte cette forêt lugubre. Mais pour aller où ?
Maman, il faut qu'on prévienne mamie.
La famille de Georgette Metz sera transférée en mars 1942 au camp de Saint-Maurice-au-Richomme dans l'Yonne. Les 2 autres bus transporteront les autres internés jusqu'au camp d'internement de Peignet en Haute-Marne ou celui de Arc et Senan dans le Jura. Les conditions de détention y étaient également très difficiles, d'après son témoignage, et ce nouvel internement durera jusqu'en juillet 1945, date de sa libération. En effet, la grand-mère avait trouvé un emploi de vacher au père de Georgette, ce qui conditionna la libération de la famille. Repassant par Maulois, ils essayèrent de récupérer leur roulotte, mais apprirent qu'elle avait été, entre-temps, détruite et transformée en cage à lapins.
La famille rentra donc chez elle à pied, en Saône-et-Loire, à Bonencontre, où le père exerça le métier de vacher et la mère continua la vannerie et le rempaillage de chaises. Quant à Georgette, elle se maria à 23 ans et s'installa à Jambles, toujours en Saône-et-Loire. Avec son mari, ils eurent 10 enfants et 32 petits-enfants. Le 16 juillet 2005, accompagnée de l'une de ses petites filles, elle inaugura une stèle dans la forêt de Maulois à l'emplacement des baraques du camp. Elle avait alors confié à l'époque « Ça faisait 60 ans que je n'y étais pas retourné. Ça m'a fait tout drôle car la forêt a repoussé. Ce n'est plus la carrière que j'ai connue aujourd'hui. Il y a des arbres partout et la forêt est aujourd'hui réputée pour une belle variété d'orchidées, le sabot de Vénus. Georgette Metz est décédée le 14 février 2018 à l'âge de 85 ans. Notre travail lui est dédié. »